Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence Phileas Asset Management. Je laisse à présent la parole à messieurs Cyril Bertrand et Ludovic Labal. Messieurs, c'est à vous.
Merci Clotilde. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette traditionnelle conférence téléphonique. Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. Donc on va procéder comme d'habitude. On va d'abord parler des performances, ensuite des contributions à cette performance depuis le début de l'année. Et enfin, on terminera avec les idées clés, hein, le moteur de la performance future. Donc sur le slide numéro 4, pardon, sur le slide numéro 3, vous voyez la performance de Phileas Long Short Europe depuis le début de l'année. On est à plus 1,71%. Ça porte la performance annualisée depuis la création à 2%. Si on regarde les indicateurs de risque sur un an glissant, la volatilité est à 3,6%. Donc on voit que la volatilité reste contenue, hein, dans le contexte actuel, elle monte forcément un petit peu, mais c'est très, très marginal. Ce qui est intéressant de noter, c'est le bêta du fonds face au marché, face au stock 600. Sur un an glissant, il est à 0,00. Dans la période actuelle, on constate que ce bêta reste toujours sur 0, ce qui est cohérent avec ce qu'on constate depuis la création du fonds. Et ce qui est bien la marque du market, de la caractéristique market neutral de notre fonds, ce qui est utile dans les phases actuelles, hein, qui sont des phases perturbées. Et ça, on le voit notamment phase 4, on voulait faire un focus sur le comportement du fonds dans les phases de baisse de marché. Si vous regardez ce slide, vous voyez que depuis le début de l'année, donc le marché est à moins 20, le fonds est à plus 1,71. On a pris également 2018 où sur l'ensemble de l'année, le marché a perdu un peu moins de 11%. Le fonds a gagné 3,74%. Donc pas du tout perturbé, hein, évidemment, par les mouvements de marché, enfin par la direction du marché en tout cas. Et sur avril-décembre 2011, qui était l'année du lancement du fonds, le marché sur cette période avait perdu 11%. Et là, on avait gagné 3,73%. Donc ça illustre bien le comportement du fonds dans ces phases-là, qui en général s'en sort bien, notamment grâce à un bon alpha sur les shorts. Hein, la partie short, en général, sur ces phases de baisse, a de meilleures contributions que ce qu'on constate habituellement. Donc un bon alpha là-dessus. C'est notamment lié au fait qu'on fait les shorts nous-mêmes. Hein, on ne délègue pas le short à des indices. Donc on est sans doute plus fin et on a un bon stock picking dans ces phases-là. Et puis, ce sont des périodes aussi où on constate plus de dispersion au sein du marché en général. Donc pour le long short, c'est assez intéressant parce que ça génère plus d'idées en fait. Le marché génère plus d'idées structurellement pour le long short. On a un terrain de jeu qui est un peu plus actif. Et donc ce sont des périodes qui sont plutôt intéressantes pour des stock pickers comme nous. Voilà, sur le slide numéro 5, on voit la performance de notre fonds action, Phileas Equity Europe. Depuis le début de l'année, on est à peu près comme le marché, à moins 19%, le marché est à moins 20%. On est en ligne avec le marché depuis la création du fonds en octobre 2015. Sachant que c'est un fonds concentré, hein, autour de 30 à 40 convictions fortes, que notre tracking error sur le fonds est de 7%. Donc on a quand même bon espoir à l'avenir de faire un écart avec le marché grâce à cette caractéristique, hein, qui est un tracking error, qui nous permet normalement de pouvoir nous démarquer de l'indice à un moment donné. Voilà, je vais passer la parole à Ludovic qui va parler des contributions à la performance.
Alors, bonjour. Page 6 et 7, vous avez les contributions positives et négatives, long et short. Dans les longs, c'est évidemment plutôt des contributions négatives puisque le marché a baissé, sauf sur un sous-portefeuille où on a gagné sur la patte longue. Donc la plus grosse contribution positive, ça a été service IT, qui est un assez gros sous-portefeuille en général chez nous en expo brut. Et là, on a eu un bon stock picking sur les shorts globalement, avec des titres comme Elis, qui n'était pas une très grosse position, mais qui s'est effondré évidemment. Voilà, c'est un business leveragé, très sensible à l'hôtellerie, donc ça a été difficile. Le sous-portefeuille infrastructure, et c'est infrastructure immobilier en fait, on aurait pu le rajouter là, on a perdu sur certaines poses dans l'immobilier, exposé à l'immobilier hôtelier et à l'immobilier de bureau, c'est le cas de Rantan, mais ça a été plus que compensé par nos positions sur l'immobilier commercial, l'immobilier en centres commerciaux, Unibail Rodamco, Citycon, Verroldev, Clépierre, c'est que du centre commercial. Dans la consommation, on a perdu un peu sur nos pauses longues dans le luxe, sans grande surprise, notamment sur la première partie de la pandémie avec l'épisode chinois qui a été assez douloureux pour le secteur, mais ça a été plus que compensé par les shorts. Et dans la santé, donc c'est le seul sous-portefeuille où on a une contribution positive sur la patte longue malgré la baisse du marché, et une contribution positive sur la patte short aussi. Et c'est vrai que c'est un sous-portefeuille qui a pas mal d'opportunités en ce moment, puisque cette pandémie fait naître à la fois des opportunités de business pour certains acteurs, on en reparlera tout à l'heure, et dans le même temps disrupte un petit peu la demande à court terme sur certains autres segments. Donc c'est plutôt un bon terrain de jeu pour le long short. Dans les contributions négatives, page 7, Aéronautique Défense, on a perdu 100 BP. Et là, c'était globalement ce qui dépassait, donc c'était un sous-portefeuille qui se retrouvait légèrement net long aéronautique, net short défense, et c'était une mauvaise idée, compte tenu de ce qui se passe dans le secteur aéronautique. Et de l'aéronautique, il y en a beaucoup chez MTU, même s'il y a un peu de défense, et il y en a un petit peu chez Thales quand même, et il n'y en a pas beaucoup chez BE, qui est un pure play défense, donc il a plutôt surperformé. Dans l'industrie, on a perdu un peu plus de 70 BP. On était long de titres qui ont pas mal souffert du confinement. Et on a des shorts qui étaient pas mal des shorts scandinaves et qui ont plutôt profité, au moins sur le début de l'année, d'un effet de change qui est très positif en conversion et en transaction pour les boîtes scandinaves. Puis dans la construction, on a perdu 60 BP en perdant pas mal de sous sur Saint-Gobain qui présente le triple défaut d'être à la fois assez sensible au confinement de par son mix géographique, cyclique évidemment, et un peu leveragé. Donc ça s'est pas très bien passé. Et on s'est un petit peu sauvé sur CRH, on a gagné dans un premier temps sur la patch short, parce qu'on était short CRH et elle est partie un peu avec l'eau du bain. Elle a enfoncé nos objectifs de cours, donc on en a acheté, voilà, et on a gagné sur le rebond du titre, on en reparlera un petit peu tout à l'heure.
Sur le slide suivant, page 8, on va parler des idées clés du portefeuille. Donc si on commence par le long, on a divisé ce portefeuille long en deux sous-catégories en termes de présentation. On voulait vous parler d'une première poche qui est une poche de valeur qui devrait plutôt profiter du contexte du Covid et surtout de l'après-Covid, sur lequel il y a des opportunités de marché intéressantes qui se développent et qu'on voudrait capturer. Et une deuxième catégorie de valeurs sur les longs, qui sont des sociétés qui souffrent évidemment du contexte actuel de confinement, mais qui nous semblent pouvoir ressortir plus fort derrière dans l'après-Covid.
Voilà, dans la première catégorie, donc de sociétés qui ne sont pas très sensibles au confinement et à globalement toutes les problématiques que connaissent les entreprises actuellement. On a Danone par exemple. Donc Danone, effectivement, quand vous êtes plus à la maison, vous avez moins d'opportunités de consommer en dehors de votre foyer, plus d'opportunités de consommer dans votre foyer. Et le portefeuille de Danone s'y prête plutôt bien, même s'il y a un petit peu de out of home sur la partie boisson. Globalement c'est un business qui s'en tire plutôt bien et c'est vraiment pas cher, on aimait bien Danone avant, à 16 fois les résultats, on trouve que c'est vraiment assez bradé, c'est pas très aimé parce que le management ne communique pas très bien, voilà, c'est un peu le vilain petit canard du secteur, mais les catégories sont quand même plutôt bien orientées. C'est un peu la même situation pour HelloFresh, c'est une boîte assez récente en bourse, hein, qui a été introduite il y a quelques années mais qui n'est pas encore super suivie. C'est un business model un peu particulier, c'est de la livraison à domicile de kits de préparation de repas. Donc c'est pas Deliveroo qui vous livre votre repas, on vous livre une boîte avec une recette et puis ce qu'il faut pour faire la recette chez vous. C'est un business qui n'est pas très présent en France, mais qui est très présent aux États-Unis, en Europe du Nord. Donc de façon moins la cuisine, on a besoin d'un peu plus d'aide. Donc c'était une boîte qui était déjà en très forte croissance avant la pandémie, et dont la croissance s'est évidemment accélérée depuis que la pandémie a commencé, mais ça ne nous semble pas très cher, quoi. Globalement, ça vaut deux fois le chiffre d'affaires, et on a un très gros upside, ce qui est rare pour une boîte de croissance en général, où les upsides ne sont souvent pas gigantesques, ça nous paraît bien capturé. Là, 40% d'upside, si on ne se trompe pas trop, ça nous semble pas trop mal d'en avoir. Dans la santé, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il y a pas mal d'opportunités, parce que si on réfléchit, si on map un petit peu les pays globalement dans le monde qui ont le mieux protégé leur population et leur économie, ils avaient quand même la caractéristique commune d'être mieux équipés que les autres sur certains segments de leur dispositif médical, notamment leur capacité à tester la population et leur capacité à traiter la population dans les services d'urgence. Et il nous semble qu'au-delà de la demande actuelle qui est très forte sur ces segments-là, évidemment, il y aura une certaine course à l'armement de quasiment tous les pays du monde pour remettre leur système hospitalier à niveau sur ces problématiques-là. C'est des équipements qui ne sont pas très coûteux et qui sont quand même assez utiles à avoir. Donc c'est le cas de bioMérieux, évidemment, sur les tests, qui est plutôt bien positionné, nous semble-t-il. C'est le cas de Getinge, qui est une boîte suédoise, qui était vraiment très intéressante aussi, parce que c'est déjà un dossier de recovery qui nous intéressait pas mal. Et il se trouve que c'est le leader mondial des respirateurs. Alors là, ils ont un quart du marché mondial des respirateurs, 70% du marché mondial des membranes extracorporelles. C'est quand le respirateur ne marche pas et qu'il faut oxygéner votre sang, ben voilà, ils n'ont pas de concurrent. Ils font aussi du monitoring, ils ont d'autres segments qui sont plutôt intéressants. Et voilà, il me semble que la demande actuelle va sans doute céder. Le pic de commande sera peut-être cette année, mais le pic de chiffre d'affaires, il n'est pas du tout cette année. Et le marché du respirateur, petite parenthèse, c'est un micro-marché. Getinge, c'est un quart du marché mondial des respirateurs et c'est 10 000 respirateurs. Donc le marché mondial des respirateurs en acute care, c'est 40 000 par an dans le monde. Et là, sur les commandes qui ont été publiées, il y en a très peu qui ont été publiées par les États. Vous avez une commande de l'Allemagne, pas à Getinge, mais à leur concurrent Dräger Werk, pour 30 000 respirateurs, donc un peu moins d'une fois le marché mondial. Et une commande des États-Unis à Philips pour 45 000 respirateurs. Voilà, donc il nous semble qu'il y en a pour un petit moment. Et Philips, évidemment, dans cette problématique-là, et sur l'aspect respirateur, sur l'aspect monitoring aussi, et sur la télémédecine sur laquelle ils sont très en pointe.
Dans les services IT, on a Atos en portefeuille qui nous semble être un dossier défensif et qui peut également bénéficier de ce contexte actuel, dans la mesure où ils ont une division cybersécurité qui enregistre de forts niveaux de croissance et de demande, d'autant plus que le développement du télétravail nécessite un renforcement de cette cybersécurité. Ils ont une grosse division dans la gestion de l'infrastructure IT qui est très défensive. Et au sein de cette division, il y a la digitalisation des postes de travail qui croissait déjà avant, mais qui enregistre une forte demande, évidemment. Donc des moteurs de croissance assez intéressants chez Atos dans le contexte actuel, couplé à une valorisation qui est très basse. Donc c'est un couple à la fois momentum plutôt positif et valorisation très très intéressant. Et on a également Avast, toujours dans cette catégorie. Avast, c'est un éditeur de logiciels qui vend des antivirus. Donc là, évidemment, il y a une forte demande. Il y avait déjà une croissance qui était de l'ordre de 8-9% structurellement. Il y a une accélération évidemment de la demande et de la croissance du marché, étant donné que le télétravail demande un équipement en antivirus. Et on a pas mal d'upside sur ce dossier. Enfin, sans ce boost de marché, on avait déjà pas mal d'upside. Donc évidemment, c'est renforcé. Voilà sur cette catégorie.
Puis on a une autre catégorie de titres, donc dans les longs, qui sont des titres qui souffrent énormément de l'environnement actuel, soit parce que la demande est complètement atone, soit parce qu'ils sont confinés et donc ne peuvent pas produire ou ne peuvent pas livrer, mais qui nous semblent intéressants dans une perspective un peu plus moyen terme, avec des drivers de demande qui sont soit pas impactés, soit marginalement positivement impactés. C'est le cas d'un titre comme Trigano, par exemple. Donc Trigano, c'est camping-car. Ils ont un tiers du marché européen du camping-car, qui est un petit marché, hein. Trigano, ils font 40 000 camping-cars par an, donc c'est pas du tout les millions de véhicules qu'on a sur le marché européen de l'automobile. C'est un segment qui est plutôt bien orienté, qui est drivé par des facteurs démographiques qui changent pas tellement, hein, on va dire. Donc qui est en croissance high single digit, ou qui aurait été en croissance sans doute de 10% cette année. L'environnement actuel est très perturbé parce que l'essentiel de la saison de livraison se fait maintenant pour l'été, donc c'est raté pour cette année. Le bilan est très sain, donc permet de traverser la crise sans trop de problèmes. Et au-delà, les caractéristiques de ce marché, bon, voilà, qui est un marché de loisirs domestiques, très compatible avec des loisirs qui sont un peu plus proches de la maison, très compatible avec des loisirs qui fonctionnent bien en distanciation sociale, parce que c'est de l'hôtellerie de plein air, qui marche mieux que l'hôtellerie classique, et avec un segment de population qui est très sensible à ces problématiques-là, parce que le client moyen d'un camping-cariste, il a 65 ans. Donc voilà, il nous semble que c'est pas mal. C'est une boîte qui saisit en général assez bien les opportunités de croissance externe dans les downturns. Voilà, ils ont un track record de 20 ans en la matière qui est assez exemplaire. Donc on pense qu'ils feront les bonnes choses. Même catégorie pour dans la construction sur CRH et Stika. On a un tout petit peu net long sur ce sous-portefeuille. Et c'est l'exposition infrastructure qui nous intéresse. Les infrastructures, c'est en général, après des grosses crises comme celles qui se préparent, le segment qui profite le plus d'éventuels plans de relance, parce que c'est de l'emploi local, non délocalisable, ça mobilise beaucoup de monde très vite, des gens pas très bien payés en général, sur des projets qui sont très productifs. Donc voilà, ça fonctionne en général comme ça. Et CRH et Sika ont un footprint géographique qui leur permet, à notre sens, de bien capturer ça. Avec en plus une sensibilité au coût matière qui est très favorable en ce moment, parce que Sika consomme pas mal de dérivés du pétrole, il y a un gros business d'adhésif et puis c'est de la chimie pour la construction globalement. Et CRH aussi via son business d'agrégat aux États-Unis. Ces deux boîtes qui ont beaucoup de pricing power, donc ça devrait être assez agréable sur les marges, avec un chiffre d'affaires qui sera sans doute très impacté, mais ça fait un petit buffer.
Sur la partie short, de façon symétrique, on a également deux catégories. Enfin, on a identifié deux catégories. Une poche de short, de dossiers qui vont sans doute à moyen terme souffrir du thème de la distanciation sociale. Et une autre partie dans les shorts qui sont plutôt des dossiers de qualité qui ont bien résisté, qui ne sont pas impactés par le contexte actuel, mais qui n'ont pas du tout baissé et donc qui nous semblent très chers en relatif par rapport à ce qu'on a en long en face.
Voilà. Donc sur la première catégorie, on a évidemment l'aéronautique, hein, c'est un peu faire la crème, mais ça va être quand même problématique pour un petit moment. Hein. Les anciennes cadences de production d'Airbus ne sont pas du tout adaptées à la demande telle qu'elle se prépare. Donc Rolls-Royce nous paraît plutôt un bon short, avec l'avantage d'être un petit peu leveragé en plus, et d'être sur le segment de l'aéronautique qui va sans doute souffrir le plus, qui est le segment des longs courriers. Ils ont plus de business de monocouloir. Donc ça va être un peu plus difficile pour eux encore. Donc c'est vraiment le mauvais bilan sur le mauvais segment dans la mauvaise industrie. Alimentation, boisson, HPC, on est short de titres comme Diageo ou Heineken, qui ne sont pas effondrés, mais dont le business va, nous semble-t-il, être quand même à moyen terme encore beaucoup plus impacté que d'autres segments de ce sous-portefeuille, par la distanciation sociale, via l'exposition au on-trade, donc le business qui se fait en bar, en café, en hôtel, qui représente à peu près 20% du chiffre d'affaires dans les spiritueux et la bière, et un peu plus de l'EBIT, donc peut-être 30% de l'EBIT. Donc ça c'est difficile. En Chine, où les bars sont rouverts depuis 3 semaines, il y a seulement 30% des bars qui ont été rouverts, et la fréquentation est extrêmement faible dans ces 30% ouverts. Ça va être un peu compliqué. Dans l'industrie, on est short d'une mid-cap allemande qui s'appelle Rational, qui est une boîte fantastique, mais qui est sur un marché qui est compliqué. C'est du CAPEX pour restaurants, en gros, si je caricature. Ils vendent des fours à vapeur très haut de gamme. Quand vous êtes restaurateur, le CAPEX, ça ne va pas être votre grosse priorité. On est toujours short un petit peu d'Unibail. On a coupé quelques shorts sur ce segment-là. On a coupé Clépierre ou Deutsche Euroshop, mais on est resté short d'Unibail. Et la distanciation sociale dans les centres commerciaux, c'est là pour un petit moment. Ça va être très dur pour le PNL de la distribution textile, parce que ça fait des chiffres d'affaires qui sont beaucoup plus bas en densité que run rate normal. Il y a beaucoup plus de cannibalisation du online. Enfin, voilà, c'est des facteurs qui étaient déjà enclenchés, mais qui vont s'accélérer. Et quand vous êtes leveragé 12 fois les EBITDA avec votre client, c'est des gens comme ça, mais c'est pas facile. Et puis Compass, sur les cantines, évidemment, qui est normalement un business assez défensif, mais qui va souffrir quand même de la hausse du chômage et de la distanciation sociale dans les entreprises.
Sur l'autre catégorie, qui sont les dossiers de bonne qualité, mais qui nous paraissent chers en relatif, on a des dossiers en short comme Coloplast dans la santé, ou encore SAP, Wolters Kluwer, Symrise et Givaudan, qui sont globalement des valeurs qui ne sont pas impactées dans le contexte actuel, mais qui n'ont pas du tout baissé, et qui gardent des niveaux de primes aujourd'hui très très importants par rapport à ce qu'on a en long. Donc dans une approche de valeur relative, ça nous semble être des dossiers intéressants et qui nous permettent en plus de neutraliser, de bien neutraliser notre facteur qualité au sein du portefeuille. Voilà, on en a terminé pour cette présentation. Je peux peut-être repasser la parole à l'opératrice. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en direct.
Merci messieurs. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une première question de monsieur Frédéric Redel. Monsieur, c'est à vous.
Bonjour, c'est à moi.
Oui, bonjour Frédéric.
Oui, bonjour. J'avais une question sur la slide 6, sur la contribution service et IT. Vous mettez les quatre principales longs et dont le total entre Worldline et SPI, c'est à peu près les 179 points que je vous indiquais. Par contre, sur les shorts, les quatre Elis, Sopra et les deux autres, ça doit faire à peu près 130 ou 140. On est très loin des 387 de shorts. Est-ce que ça veut dire que vous avez plein de plus petites positions shorts qui ont contribué? Est-ce que c'est ça l'explication?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la partie service IT, comme le disait Ludovic, c'est vraiment le secteur où il y a le plus de valeur, où l'univers d'investissement est le plus large, de loin, hein, par rapport à nos autres secteurs. Donc c'est là-dessus où il y a le plus de valeur, c'est en général investi, c'est là où l'exposition brute est la plus importante. Et effectivement, derrière, tu peux tout à fait rajouter une bonne dizaine de valeurs ou une quinzaine de valeurs qui vont nous rapporter 15 BP, 20 BP. Et qui font le delta. Donc en fait, effectivement, il y a derrière ça pas mal de valeurs. On peut t'envoyer la liste si ça t'intéresse. Et ça illustre une autre chose, c'est que dans la construction de notre portefeuille, nous, en général, face à un long, on met 2, 3, 4 shorts. Donc on a beaucoup plus de positions short en nombre que de long, hein, puisqu'on essaye de diversifier le short. C'est plus risqué individuellement quand on se trompe sur un short. Donc la structure de portefeuille fait que effectivement la contribution sur les shorts est en général plus dispersée. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Oui, c'est très clair, merci.
Oui, je t'en prie. Merci pour ta question.
Merci monsieur. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, vous pouvez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment.
Si on n'a pas d'autres questions, on peut répondre à deux questions qu'on a reçues par mail. Il y avait une première question qui était relative à l'impact sur notre gestion de l'interdiction de short sur un certain nombre de marchés, hein, comme la France, l'Italie ou l'Espagne. Alors effectivement, c'est un environnement qui est pas sympathique pour nous, mais c'est un environnement qu'on a connu dans le passé. En 2011, il y avait déjà des restrictions de short sur certains secteurs. En 2008-2009, chez Exane, on avait des restrictions de short sur les marchés. Donc on a su évoluer dans ce genre d'environnement. C'est pas nouveau pour nous, en fait. On préférait que ça ne soit pas le cas, mais on y arrive bien. La façon dont on procède en général, c'est qu'on déplace le terrain de jeu sur les autres marchés ouverts. Et le terrain de jeu est très vaste, il n'y a aucun problème. Et du coup, on ajuste nos shorts sur ces marchés-là, tout en conservant les shorts qui sont déjà en place. Hein, ça, on a le droit de les garder, évidemment. Une autre façon de gérer notre risque et notre exposition, c'est d'ajuster la partie longue, tout simplement, hein, sur laquelle on n'a absolument pas de contraintes. Donc, on arrive au global à bien gérer ça. Un complément de couverture pourrait être des indices comme le Stoxx 600, mais on n'y a pas recours aujourd'hui parce que on a suffisamment le terrain de jeu est suffisamment vaste justement pour opérer correctement.
Il y a une deuxième question qu'on a reçue et puis qu'on nous a posée par ailleurs avant sur les sur le positionnement du fonds en termes de biais éventuels de style, entre qualité, value, cyclique, défensive, etc. Ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis plusieurs mois, on a pas mal intensifié notre effort sur le suivi de ce type de risque, avec des tags de style qui sont assez fins et qui nous permettent de bien les suivre et globalement de beaucoup mieux les neutraliser pour éviter de souffrir, comme ça a pu être le cas par le passé, de rotations de style très fortes, notamment dans les phases de rebond, qui historiquement nous ont été assez défavorables. Enfin, c'est les phases qui nous ont été défavorables, le reste du temps ça se passait pas trop mal. Et là on voit qu'effectivement dans la période récente où le rebond du marché a été quand même assez monstrueux sur les points bas, on n'a pas souffert de ce type de rotation, parce qu'on est globalement très neutre là-dessus. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour expliquer les mouvements du marché depuis 2 mois, on voit bien que les facteurs de style habituels ne permettent pas du tout de rendre compte dans la totalité des mouvements du marché. On a des business qui sont traditionnellement défensifs, qui sont confinés, qui n'ont plus d'activité, plus de chiffre d'affaires, et qui donc sont impactés économiquement à court terme, en tout cas beaucoup plus que des business potentiellement très cycliques qui ne sont pas confinés. Donc Essilor Luxottica, par exemple, fait moins bien que Schneider depuis le début de l'année. C'est un peu contre-intuitif dans une récession, mais ça se comprend assez bien à court terme. À long terme, ça se discute un petit peu, je trouve que ça donne des opportunités quand même. Mais voilà, donc on a ajouté pas mal de facteurs qui sont globalement des facteurs de sensibilité au confinement, des facteurs de sensibilité au déconfinement avec les aspects de distanciation sociale qui nous permettent de suivre de suivre un petit peu mieux ce qui se passe dans le marché et comment notre portefeuille est positionné dans le marché. À cela se rajoutent les facteurs géographiques qui sont pertinents, qui vont sans doute l'être beaucoup encore. Voilà, l'Europe du Sud, on a le nez dessus, l'expo émergente, la TAM, on a le nez dessus aussi. Donc globalement aujourd'hui, sur les tags, sur notre univers de notre terrain de jeu de 250 valeurs à peu près, on en est à 33 tags qu'on suit tous les jours, voilà, en post-trade et en pré-trade.
Et ça, c'est un outil qui est nouveau en fait, hein, puisqu'on l'a vraiment mis en opération depuis la fin de l'année dernière seulement. Et ça répondait à cette volonté de suivre de façon très fine les facteurs qui, de temps en temps, nous embarquaient dans certains biais qu'on voulait mieux neutraliser, ce qui est le cas actuellement. Donc on espère que cet outil de gestion des risques va nous permettre de traverser de façon plus consistante et plus robuste encore ce genre de phase. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on en a terminé pour cette présentation et cette conférence téléphonique. Dans cette période un peu difficile, prenez soin de vous et des autres. Et au revoir.
Au revoir.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter.